VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Anastasie Tudiège, très heureuse d'être avec vous pour un monde aujourd'hui un peu spécial. La programmation est spéciale, Noël oblige. Après un court bulletin d'information, nous allons ensemble profiter de presque 30 minutes d'un programme préparé par la rédaction, la rétrospective de l'année 2015. Mais tout de suite, l'information, Anne Albertson m'a rejoint.
En République centrafricaine, les autorités ont proposé jeudi de reporter au 30 décembre le premier tour des élections présidentielles et législatives prévues dimanche. La présidente de transition, Catherine Samba-Panza, lors d'une réunion avec l'autorité nationale des élections, les représentants des partis, des candidats et de la communauté internationale, a posé clairement la question du report, à quoi la présidente de l'autorité nationale des élections a proposé le 30 décembre. Une annonce applaudie par les partis en présence. Les causes du report sont multiples. Formation des agents électoraux à parfaire, difficulté d'acheminement des bulletins de vote à l'intérieur du pays, dans un contexte d'insécurité totale. Selon l'AFP, la Cour constitutionnelle devrait se réunir ce vendredi pour valider ou infirmer cette date du 30 décembre.
La police kényane a mis en garde hier jeudi, à la veille de Noël, contre un risque accru d'attaque d'islamistes somaliens Shebab, après que certains combattants ont changé d'allégeance, passant d'Al-Qaïda au groupe État islamique. Pour le responsable de la police, Joseph Boyney, les Shebab prévoient de prouver leur puissance et leur indépendance en organisant des attaques. Cela nous met en réel danger d'être frappés par ces éléments meurtriers, a-t-il ajouté, sans donner plus de précision. C'est la première fois que le Kenya reconnaît la présence de factions ayant prêté allégeance à l'EI dans le pays. Le Kenya est l'une des cibles privilégiées des Shebab depuis octobre 2011, date à laquelle il a commencé à fournir un contingent militaire à la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM.
Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi se sont assurés jeudi à Moscou de leur soutien mutuel sur la scène internationale. Lorsque je regarde le futur, je vois en la Russie un partenaire important pour la transformation économique de l'Inde et pour la création d'un monde équilibré, stable et multipolaire, a déclaré Narendra Modi à l'issue de 2 jours de visite. D'après le président russe, les deux pays signent des investissements communs représentant $1 milliard, mais les deux chefs d'État n'ont pas prononcé un mot devant la presse sur un contrat éminemment stratégique, celui de la vente de systèmes antiaériens russes dernier cri S-400. Une telle acquisition, sur laquelle spéculait la presse russe et indienne, ferait de l'Inde le 2e pays étranger doté de tels missiles, après la Chine. Un contrat qui, selon les experts, nécessitera davantage de négociations.
Et puis une histoire qui ressemble bien, Anne, à un conte de Noël. Après 39 ans de recherche, l'une des fondatrices des grands-mères de la place de Mai, Maria Chicha Mariani, vient de retrouver sa petite fille, enlevée par un policier à l'âge de 3 mois après l'assassinat de sa mère pendant la dictature argentine de 1976 à 1983. L'annonce des incroyables retrouvailles a été faite via la page Facebook de la Fondation, assortie d'un selfie immortalisant les retrouvailles. La page Facebook ajoute que Clara Anahi, dont la photo bébé a été diffusée pendant des décennies à chacun de ses anniversaires, a de son côté cherché inlassablement à retrouver sa grand-mère, jusqu'à faire reconnaître scientifiquement leur lien génétique établi à 99,9%.
Ce cas est devenu connu dans le monde grâce à la diffusion des lettres ouvertes écrites par Maria Mariani à sa petite fille. Le 24 novembre 1976, Clara Anahi a été enlevée par un policier en voiture après l'assassinat de sa mère. Au cours d'un raid des forces de sécurité à leur domicile à La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires, les grands-mères de la place de Mai, une organisation fondée en 1977 en pleine dictature, s'activent depuis de longues années à rechercher ces petits-enfants portés disparus. Elles estiment que 500 bébés d'opposants politiques enlevés à leur mère ou nés en captivité ont ensuite été adoptés par des dignitaires du régime militaire, responsables de la mort ou de la disparition de 30 000 personnes.
Et puis le pape François a exhorté hier soir, lors de la messe de la veillée de Noël, les 1,2 milliard de catholiques dans le monde à rechercher sobriété et sens de la justice dans une société éprise d'apparence et de narcissisme, a-t-il dit.
Dieu nous appelle à un comportement sobre, c'est-à-dire simple, équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre l'essentiel, a-t-il affirmé dans une basilique comble à l'occasion de cette fête qui est avec Pâques, l'une des deux célébrations centrales du christianisme. François a poursuivi, dénonçant une culture de l'indifférence qui finit par être impitoyable et jugée que doivent cesser toute peur et toute frayeur pour les chrétiens en raison de la lumière que constitue la naissance de Jésus.
Voilà pour le journal. Au nom de toute la rédaction de VOA Afrique, nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël dans la sobriété, pourquoi pas, mais entourées de vos proches. Restez avec nous à venir, un programme spécial, la rétrospective de l'année 2015 avec nos correspondants dans les différents pays.
Merci de nous retrouver pour cette édition spéciale du Monde aujourd'hui consacrée à la rétrospective de l'année qui s'achève. Quel bilan de l'année 2015 en Afrique? Des changements survenus au Burkina Faso, aux attaques de Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Tchad, en passant par la controverse du troisième mandat au Burundi, au Rwanda, en RDC et au Congo-Brazzaville. VOA Afrique revient sur les grands événements sociopolitiques, culturels et sportifs qui ont marqué l'Afrique cette année. John Lydon à la présentation, Joselle Morrison à la production. Merci pour votre fidélité. Commençons cette rétro 2015 par le Burkina Faso. L'année 2015 restera dans les annales de l'histoire sociopolitique du Faso, en ce sens qu'elle aura vu pour la première fois un passage de témoins entre deux présidents civils. Elle reste aussi l'année qui a vu la dissolution du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Retour sur les grands moments du Burkina Faso en 2015 avec Zoumana Ouonogo à Ouagadougou.
2015 a eu une fin heureuse, mais que ce fut dur à cause de l'irrédentisme des militaires du RSP, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré. Déjà, au mois de février, le RSP a tenté de kidnapper le premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il a trouvé refuge chez le chef des Mossé, le Moro Naba. S'en suit alors des négociations qui ont abouti à des changements à l'état-major particulier de la présidence du Faso et au sein du RSP. C'est ainsi qu'on a pu organiser la 24e édition du FESPACO et le Grand Prix est revenu à...
Étalon d'or, fièvre de Hicham Ayous du Maroc.
La chose politique a encore repris du poil de la bête avec le vote du code électoral. Inclusif pour certains, exclusif pour d'autres. Chérif Sy, le président du CNT, le Parlement de la Transition, explique.
On a dit que tous ceux qui ont contribué soutenu une modification anticonstitutionnelle. Mais ce qu'il faut retenir, qui remet en cause le principe de l'alternance et qui conduit à une insurrection.
En réaction aux effets du nouveau code électoral, le président du CDP, le parti de Blaise Compaoré, est sorti de ses gonds. On écoute Eddy Komboigo.
Le CDP n'acceptera point l'exclusion. L'exclusion d'aucun compatriote, quel que soit le motif.
Entre-temps, le RSP est revenu à la charge en demandant la démission du Premier ministre et de tous les militaires du gouvernement. Après des concertations, le Premier ministre est maintenu, mais le RSP a eu la tête du colonel Auguste Barry, le ministre de la Sécurité. Les yeux de tout le monde étaient alors fixés sur les élections couplées. À la veille de l'ouverture de la campagne, revoilà le RSP, kidnappe cette fois-ci le président de la transition, le Premier ministre et deux autres membres du gouvernement. Ceux qui ont pensé que c'était encore un mouvement d'humeur des soldats du RSP vont déchanter.
Le Conseil national pour la démocratie, CND. Peuple du Burkina Faso, les mesures immédiates suivantes sont prises. Le président de la transition est démis de ses fonctions. Le gouvernement de transition est dissous. Le Conseil national de transition est dissous.
C'est ainsi que le RSP a franchi le Rubicon en faisant un coup d'État qui... heureusement, a été contré au prix du sang par les populations. Réécoutons le mea culpa du chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré.
Pour moi, le putsch est terminé, on n'en parle plus. Je déplore dans un premier temps les...
victimes. Il y a eu des victimes, il y a eu des blessés. Ça, c'est mon très grand regret. Il y a eu des dégâts matériels. C'est un très grand regret pour moi. Je crois que nous avons tiré les leçons.
La transition a été remise en selle et le président Cafando a eu la dent très dure contre les putschistes.
Nous sommes fiers de la mobilisation et de l'intrépidité du peuple burkinabé, en particulier de sa jeunesse, dont la détermination sans faille a permis d'arrêter l'imposture. Je salue notre armée nationale, réalisant elle aussi le défi et l'anathème qui lui ont été lancés par cette horde d'insoumis dans son amour propre à voler au secours du peuple martyrisé. Je salue la communauté internationale pour avoir rejeté sans équivoque et de façon péremptoire ce pronunciamento dit du notre.
Le RSP s'étant fait harakiri, les Burkinabés sont allés aux urnes pour les élections couplées présidentielles législatives. Et c'est le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, qui est sorti vainqueur. On écoute le nouveau président du Faso, Roch Marc Christian Kabore.
Je voudrais en ce moment historique rendre un hommage appuyé au vaillant peuple burkinabé et à tous les combattants de la liberté et de la démocratie, dont certains ne sont plus de ce monde. Nous devons à leur sacrifice ces moments de restauration de l'ordre constitutionnel pour asseoir une gouvernance apaisée, porteuse de démocratie, de réconciliation nationale, de progrès économique et social, de liberté et de justice au profit de tous les Burkinabés.
Après ce coup d'œil dans le rétroviseur, je souhaite à chacun de nos auditeurs une bonne et heureuse année 2016 dans la paix et l'amour partagé. Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci Ouagadougou, merci à toi Zoumana Onogo. Direction le Tchad, où l'année qui s'achève a été marquée par les attaques terroristes en N'Djamena, la capitale, comme dans la région du lac. Les grognes sociales et l'organisation pour la première fois du recensement biométrique font également partie des faits marquants cette année. Le point avec André Côte Majingar.
À la surprise de tous, N'Djamena, la capitale du Tchad, a enregistré de juin à juillet 2015 quatre attentats suicides faisant plusieurs victimes innocentes. Ces attentats kamikazes perpétrés au cœur de la capitale ont été revendiqués par la nébuleuse Boko Haram en réponse au déploiement des soldats tchadiens au Cameroun, au Nigeria et au Niger en mi-janvier 2015. Quoique taillée en pièces par les contingents tchadiens selon les autorités nationales, la secte Boko Haram représente toujours une menace réelle pour la population civile. Pour contenir les actions terroristes, l'Assemblée nationale a adopté le 30 juillet 2015 la loi portant répression des actes terroristes en République du Tchad et l'interdiction du port de la Bourga ainsi que de la circulation des voitures à vitres fumées sur toute l'étendue du territoire tchadien par le gouvernement. Ce n'est pas tout. Le 9 novembre dernier, le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans la région du lac et ce jusqu'en mars 2016. Pour Gali Ngoté Gata, député à l'Assemblée nationale, membre de la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, l'état d'urgence décrété dans le lac est un chèque à blanc accordé aux forces de l'ordre de commettre des exactions sur la population.
Les Tchadiens sont en train de considérer que Boko Haram, c'est un problème de la région du lac, tout simplement par les démarches gauche du pouvoir. Boko Haram, c'est une question nationale. L'état d'urgence, c'est un chèque en blanc signé à l'armée de faire tout ce qu'elle veut en dehors des normes juridiques et des contraintes du respect des droits de l'homme. Qu'est-ce que la région du lac a fait pour mériter une telle situation? Moi, ce que je constate, c'est que Boko Haram, même s'il est vaincu militairement, le dialogue politique est absolument nécessaire avec la composante Boko Haram pour qu'on puisse trouver la quiétude et la tranquillité dans la région du lac.
Autre fait marquant, l'année 2015, c'est aussi l'organisation du recensement biométrique. Le gouvernement a injecté 32 milliards et demi de francs CFA dans cette opération, ce qui a permis à la Commission électorale nationale indépendante d'enrôler environ 6 millions de Tchadiennes et Tchadiens en âge de voter. Dans son adresse à la nation à l'occasion de la journée de la liberté et de la démocratie célébrée le 18 décembre dernier, le président de la République Idriss Déby Itno se félicite de ce résultat qui, selon lui, est au-delà de la prévision.
Les résultats à la clôture du recensement le 15 décembre ont montré que ces prévisions ont été largement dépassées. C'est aussi une nouvelle donne que le gouvernement doit en tenir compte pour donner de nouvelles estimations de la population tchadienne qui, après ce recensement biométrique, doit avoisiner de 20 millions d'habitants au Tchad. Ce chiffre change complètement la donne économique, sociale, culturelle dans notre pays.
Pour l'opposant historique du président Déby Ngarledi Yurungar en mission au sud du Tchad, cette opération est tout sauf un recensement biométrique.
La population n'a pas été totalement enrôlée. Je crois que si on prorogeait un temps soit peu un délai, on aurait près de 10 millions, sinon plus, de votants au Tchad. La biométrie, c'est les 10 empreintes. Le fait que Morpho ait choisi la formule de 6 doigts, c'est pour faire une liste informatisée et non un recensement biométrique. Donc, je dis aux Tchadiens qui n'ont pas été recensés de prendre leurs responsabilités. On prolonge de 1 an ou 2 le mandat de Déby, on reprend la biométrie avec les 10 empreintes, avec le kit d'identification, pour que les élections prochaines ne souffrent d'aucune ambiguïté.
S'agissant du retard dans le paiement des salaires des fonctionnaires et le déclenchement sans préavis de grève 8 jours après la fin du mois, le président Déby invite les partenaires sociaux à privilégier le dialogue.
Il n'est un secret pour personne que les contraintes découlant de la crise qui frappe le monde entier sont à l'origine du non-paiement des salaires à terme échu. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour prévenir de pareils désagréments à l'avenir. Cependant, je vous demande de faire preuve de responsabilité et de privilégier le dialogue. Il n'est pas normal que l'on enclenche des grèves parce que le salaire a connu quelques jours de retard. À l'évidence, cela pénalise le pays.
Pour le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad pour la région de N'Djamena, Ngartoy de Blaise, cette déclaration n'engage pas les enseignants.
Nous pouvons privilégier le dialogue que pour d'autres choses, mais le salaire est sacré. Nous n'avons pas à négocier le salaire avec le gouvernement. Nous, la loi nous donne droit, après 8 jours francs, le travailleur est à même de cesser le travail de façon individuelle, tout comme collective. Et donc, c'est sa déclaration à lui. Et nous, organisation syndicale, la région de N'Djamena ne connaîtra pas du tout un retard de 8 jours ou de 10 jours de salaire. Que ce soit clair dans la tête de nos gouvernants.
Les maîtres communautaires des régions du sud du Tchad, quant à eux, ont déposé la crête depuis une semaine pour exiger le versement de 18 mois de leurs subsides. André Koduma Djingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Allons à présent au Burundi. L'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat a focalisé toutes les attentions au Burundi cette année. Des violences s'en sont alors suivies, faisant plus de 400 morts selon les Nations Unies. Retour sur ces événements et sur bien d'autres avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
L'année 2015 s'ouvre avec beaucoup de perspectives et des promesses sur bien de domaines. Une année où les Burundais attendent impatiemment si le président burundais Pierre Nkurunziza brillera en troisième mandat contesté par une partie de l'opposition. Comme de nombreux Burundais le pressentaient, le 26 avril 2015, les membres de son parti l'autorisent à briller en troisième mandat, source de tous les maux que le Burundi traverse actuellement. S'en suivent alors des manifestations pendant presque 8 mois où plus de 300 personnes seront tuées et des milliers d'autres seront incarcérées dans différentes prisons du pays. Mais entre-temps, en prisonnier de taille, l'ancien président du parti CNDD-FDD, Hussein Rajabu, qui venait de passer presque 8 ans en prison, s'échappe sans laisser de traces de la grande prison de Mbimba ou Bujumbura. Et le président Pierre Nkurunziza était invité à Dar es Salaam pour un sommet sur le Burundi, un sommet qui ne fera pas avancer la problématique du troisième mandat contesté sur terrain. Le 13 mai 2015, l'ancien patron des services de renseignement burundais, le général Godefroy Niyombare, et un groupe d'officiers de l'armée et de la police tentent de faire un coup d'État qui sera des jours.
Les forces vives de la nation décident de prendre en main la destinée de la nation pour parier à ce climat d'inconstitutionnalité dans lequel le Burundi est plongé. Les forces vives de la nation refuse avec vigueur et ténacité le troisième mandat du président Nkurunziza conformément à la Constitution et l'accord d'Arusha. Le président Nkurunziza, Pierre, est destitué de ses fonctions. Le gouvernement est dissous.
Les jours et les mois qui suivent à Bujumbura, dans les quartiers contestataires du nord et du sud de la capitale, les manifestations sont violemment réprimées, que ce soit en Ngagara, Chivitoke, Mutakura, Jabe, Nyakabiga et Musaga. Malgré les manifestations quasi quotidiennes, les élections présidentielles se déroulent sur fond de violence. Pierre Nkurunziza est élu pour un troisième mandat contesté le 21 juillet 2015.
Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociale. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuelles et collectifs de la personne humaine et du citoyen et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi.
Les violences s'accélèrent dans ces quartiers qui s'opposent à cette réélection. Les radios privées sont démolies. Des autorités proches de Nkurunziza sont assassinées par des hommes en uniforme militaire. Des roquettes sont même utilisées pour tuer le numéro 2 du régime d'alors, Adolphe Nshimirimana, ancien chef des renseignements burundais. 24 heures plus tard, l'éminent défenseur des droits de l'homme au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, échappe lui aussi à un assassinat alors qu'il rentrait à son domicile au nord de Bujumbura. Économiquement, à cause de l'insécurité, certains hôtels ferment faute de clients, le commerce ralentit, les investissements diminuent sensiblement. Le Burundi, un des pays les plus pauvres de la planète, risque d'être sanctionné par l'Union européenne qui, normalement, octroie plus de la moitié du budget burundais. L'économiste Venuste Niyongabo affirme que la menace des sanctions peut avoir un impact négatif sur l'économie burundaise.
Le déficit de cette année, qui est théorique, est de 118 milliards. Maintenant, il y a peut-être un déficit qui va être croissant. Donc, c'est-à-dire, on parle au principe que le déficit actuel est financé par emprunt, que ce soit emprunt externe et emprunt intérieur. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, si on prend la partie des dons qui étaient normalement promis et que ces dons ne viennent pas, donc ça veut dire qu'il sera lésé. Maintenant, si on prend les bailleurs qui ont promis, mais qui n'ont pas encore donné leur dernier bon en termes de désengagement, ça veut dire qu'en fait, ce que peut faire le gouvernement, c'est de s'engager vis-à-vis aussi s'il va faire par emprunt. Risque, c'est l'accroissement de la dette. L'accroissement de la dette va avec la hausse des intérêts. Troisième aspect, c'est que les intérêts financiers vont également avec la diminution des investissements, surtout du secteur privé. Et puis, quatrièmement, c'est qu'on peut dire qu'il y a aussi l'inflation. Donc, on a prévu 8%. Cette année, ce sera presque plus que ça.
S'il est vrai que la situation économique ne permet pas aux Burundais et étrangers à investir massivement, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus. Alors que les grondements des tirs à l'arme était entendu dans certains quartiers de Bujumbura. Certaines localités de l'intérieur du pays, comme Bujumbura Rural, Makamba, Gitega, ont été les théâtres également d'affrontements violents où des vies humaines ont péri. Mais les tueries du 11 décembre 2015 sont celles qui ont endeuillé le Burundi depuis la prestation de serment du président Pierre Nkurunziza. Si le porte-parole de l'armée parle de près de 90 personnes tuées, la Fédération internationale des droits de l'homme indique que plus de 150 personnes ont été tuées, tandis que plus de 300 ont été arrêtées, d'autres portées disparues. L'Union africaine étudie la possibilité d'envoyer 5000 militaires, mais les parlementaires et sénateurs réunis en congrès estiment que la paix est totale et que l'envoi des troupes étrangères peut avoir des conséquences néfastes pour le Burundi et ses habitants. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La République centrafricaine a aussi été au cœur de l'actualité cette année 2015. Notre correspondant à Bangui revient sur les faits marquants.
2015 aura été l'année la plus décisive dans l'histoire de la République centrafricaine depuis le déclenchement de la crise en décembre 2012, ouvrant la voie à des violences intercommunautaires. Plusieurs événements ont marqué le pays sur le plan politique, sécuritaire, économique ou socioculturel. Arsène Mousséavo est journaliste centrafricain. Il se rappelle encore de quelques événements.
Oui, l'année 2015 en Centrafrique a été une année très bouleversée par des crises
On peut citer quelques principales villes qui ont été beaucoup plus touchées pendant cette année 2015 qui s'achève. La ville de Kagabandoro, qui est au centre du pays, la ville de Bambari, qui a été la ville la plus touchée, la ville qui a subi beaucoup de dégâts, tant sur le plan humain que matériel, parce que cette ville a été divisée, une partie qui était sous le contrôle des éléments du général Ali Darassa, et une partie qui était donc sous contrôle des anti-Balaka. Et à Bangui, c'était vraiment une capitale qui, durant cette année 2015 s'achève, a connu trois ou quatre principaux événements qui a occasionné beaucoup plus de déplacés internes dans une partie, disons, du 3e arrondissement de Bangui, précisément le quartier appelé le PK5. Il y a eu des événements qui se sont produits deux ou trois fois dans ces localités. Une église qui a failli être brûlée. Et les derniers événements du 26 septembre et du 29 ont ébranlé toute une population de part et d'autre, que ce soit du côté des chrétiens ou bien des non-chrétiens. Plusieurs maisons ont été brûlées. Plusieurs maisons ont été brûlées, je le répète. Et c'est ce qui a vraiment été la crise la plus, disons, désastreuse dans cette partie de la capitale centrafricaine. Voilà brièvement présenté un peu la situation. Mais je pense qu'avec la visite du pape qui avait eu lieu le 29 et 30 novembre de cette année qui s'achève, il y a eu un lieu d'espoir. On a vu que dans le 3e arrondissement de Bangui, où il y a cette enclave des musulmans, eux-mêmes ils ont pris la décision de pouvoir chasser de ce secteur-là ceux qui sont considérés comme des extrémistes qui sont dans le secteur, qui sèment des troubles.
Autre fait marquant, le Forum national de Bangui tenu du 4 au 11 mai, la visite fin novembre du pape François à Bangui, Kevin Yabada, ancien président de l'Association nationale des étudiants centrafricains, ANECA.
Ce qui a marqué un peu, c'est le forum. Le forum était passé dans de bonnes conditions et en dehors de ces crises qu'on a connues, qu'on ne peut pas aussi expliquer, on a vu ce qui a vraiment amené encore beaucoup plus la sérénité, c'est l'arrivée de pape. Cette arrivée tant attendue a été reçue. Pape est venu jusqu'à encore, ce qui est très remarquable, aller au kilomètre 5, ce qui est considéré comme un couloir de mort. Donc vraiment, le forum de Bangui, l'arrivée de pape, en tout cas, c'est des événements très remarquables pour moi pour l'année 2015.
L'insécurité a aussi laissé des traces indélébiles sur l'économie fortement touché par les grèves à répétition des transporteurs de l'axe Bangui-Douala, dénonçant les multiples attaques d'hommes armés sur leurs convois et la passivité des forces de l'ONU, la MINUSCA censée sécuriser le tronçon. C'est ce que remarque Marcel Moula, fonctionnaire de l'État.
Il y a d'abord eu cette prorogation de la transition qui s'éternisait. Il y a eu beaucoup d'événements sur la scène politique et sur la scène sociale. L'économie tend à se relever, mais n'est pas arrivée au top de ses capacités. Si à la paix, les gens vont vaquer à leurs occupations, les filières financières vont se mettre au travail et là, ça va renflouer les caisses de l'État qui pourraient éventuellement, avec l'appui de la communauté internationale, se remettre au travail pour mettre le pays sur le chemin du développement.
En 2015, sur le plan religieux, quel est l'événement qui vous a le plus marqué?
Je crois que vraiment l'implication de l'archevêque de Bangui a été très déterminante pour la pacification du pays. Il est sur tous les fronts. Avec la Caritas, il essaie de compenser vraiment la misère des gens. Et il n'hésite pas à prendre son bâton de pèlerin pour se porter au-devant, malgré les risques qu'il encourt.
Sur le plan sportif, on notera l'exploit des Fauves de Bazoubangui de football avec leur victoire 2-0 à Bangui devant les Léopards de la République démocratique du Congo le 8 octobre, après au moins 2 années d'absence de rencontres à domicile. Quelques mois plus tard, le gouvernement annonce une décision historique de ne plus financer les sorties sportives dans le pays jusqu'à nouvel ordre, faute de résultats positifs. Le référendum du 13 décembre, émaillé de violences, la proclamation le 14 décembre d'une république dénommée République de Dar El Kouti au nord-est du pays par le chef rebelle du FPRC Nour Adin Adam, les élections groupées du 27 décembre repoussé au 30 du même mois, constitue un tournant décisif dans la transition instaurée depuis le renversement en mars 2013 de François Bozizé par la coalition des rebelles de la Silica. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de notre Rétro 2015. John Lyndon était à la présentation, Joselle Morrison était à la production. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. Restez au cœur de l'actualité en écoutant nos programmes en direct et sur voafrique.com.